Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdu sans secours, comme tous les hommes de mon âge, dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligé est obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions.
Il y a une autre manière pour les journalistes, je les mets ensemble, les intellectuels et les journalistes, c'est d'être beaucoup plus érudits, plus plongés dans la culture. Il y a à ce moment-là des médiateurs à la Dumayet, à la Pivot, des vrais médiateurs amoureux des œuvres, amoureux du langage, et n'ayant pas peur de faire de la culture. Alors ici, on en fait beaucoup, France Culture, mais il faut que les médias plus énormes, plus grand public, la télé, etc., ou les journaux, eh bien, n'aient pas peur de la difficulté de la culture, n'aient pas peur d'être d'une certaine manière élitiste pour tous. Belle formule de Jean Villard.
Philippe Schricky, bonjour.
Bonjour.
Philippe Schricky, vous êtes politologue, auteur de nombreux articles sur la politique en France, en Israël et aux États-Unis. Vous êtes producteur de l'émission Questions à la tradition sur RCJ et chroniqueur régulier à l'Arche. Et vous êtes maintenant, depuis un an, directeur de la nouvelle revue Mirta Fradash, Lettres nouvelles, revue de réflexion pour un judaïsme ouvert. Nous venons d'entendre la voix si émouvante d'Albert Camus lors de la remise du Nobel de littérature en 1957, suivi d'un propos de Mariette Darrigan, extrait de l'émission « Secret des sources » de la semaine dernière sur France Culture. À l'heure où l'image prend une place si importante, à l'heure aussi de la presse numérique et de l'actualité rapide des réseaux et du tweet, une nouvelle revue en soi est un événement. Mais une revue papier est un double événement. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a amené à la création de cette revue alors qu'il existe déjà d'excellents magazines d'information et de culture juive? Est-ce que vous vous êtes aussi senti soutenu comme Camus par ce sentiment obscur qu'écrire est aujourd'hui un honneur auquel s'associe un devoir, devoir de l'étude, pour que, comme le dit encore Camus dans ce même discours, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Faire en sorte que la culture et l'étude soient, selon le mot de Jean Villard qu'on vient d'entendre, un élitisme pour tous. Philippe Schricky.
Alors tout d'abord, merci pour cette question. Pourquoi une revue papier? Parce que d'une certaine façon, je suis animé, comme Camus, de cette envie de passer la culture et de transmettre la pensée de ce que nous sommes, à la fois l'universel et à la fois notre communauté à laquelle on ne peut échapper, mais dans laquelle on doit s'exprimer. Alors une revue papier, c'est effectivement d'abord, nous sommes le peuple du livre, à ce qu'on dit, nous sommes attachés au papier. Le numérique, nous sommes attachés à la modernité, mais le numérique, c'est l'instantané. Et la pensée, c'est le temps, c'est la méditation, c'est la transmission, c'est l'exégèse. Et ça, ça demande un bout de papier, un grand bout de papier sur lequel on puisse griffonner, réfléchir, poser, relever, s'endormir dessus, comme dans les yeshivot. Imagine-t-on une seconde, on nous dit à l'heure du numérique, que tout va devenir numérique, que tous les livres vont devenir numériques. Imaginons les rouleaux de la Torah en numérique. C'est impossible. Donc, nos textes sont sur du papier et les revues papier ont besoin d'exister, mais non seulement elles ont besoin d'exister, mais elles existent de plus en plus. Et ça, c'est la nouveauté de notre époque. On assiste à de plus en plus de blogs, de tweets. L'information est instantanée. La pensée, elle, est à long terme. Et aujourd'hui, on voit apparaître dans les librairies, comme par hasard, en même temps que la mort des journaux papier, l'apparition des grandes revues dans lesquelles les textes sont très longs, comme la revue 21, qui fonctionne très très bien.
Ça me rappelle cette phrase de Georges Steiner à qui Laure Adler lui posait la question « Pour vous, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui lisent un livre et ceux qui lisent un livre avec un crayon à la main. » Et il répond « Pour moi, c'est la meilleure définition d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui lit avec un crayon à la main parce que dans la marge, il peut dire « Quelle bêtise, je ne suis pas d'accord, je vais écrire un livre meilleur. » Et si on n'a pas ce crayon à la main, si on n'a pas ce papier, peut-être qu'il n'y a pas justement cette confrontation suffisante avec l'intelligence du texte, même si les spécialistes du numérique vous diront que sur une tablette, on peut aussi annoter les choses. Alors, cette nouvelle revue porte un nom qui signifie « lettre nouvelle », en hébreu « Mirtav Hadash ». Mirtav, c'est une lettre. Une lettre est un mot dont on oublie presque aujourd'hui son sens postal. Parce qu'il y a des mails, mais on oublie que mail veut dire lettre. Et puis, on n'a plus le réflexe le matin d'aller chercher une lettre. Alors, une lettre, c'est un écrit que l'on reçoit et que l'on envoie. Qui est l'envoyeur et qui est ou qui sont les destinataires de cette revue, Philippe Schricky? Et puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu son organigramme, si on peut dire? Qu'est-ce que vous voulez proposer à vos lecteurs dans cette revue?
Alors, tout d'abord, effectivement, lettre, c'est émetteur, message, récepteur, comme dans toute communication, comme dans toute transmission, comme dans toute médiation. Ensuite, on vit aussi, à l'époque moderne, où on envoie les messages dans les nuages, et ils reçoivent ceux qui veulent. C'est un peu comme ces bouteilles à la mer. Donc, cette revue, c'est une bouteille à la mer, aussi bien qu'elle soit en papier. Alors, qu'est-ce qui m'a amené est-ce qu'il y avait un besoin dans le public? Je ne suis pas parti de ça, je suis parti de mes propres besoins, ma propre interrogation. Comment interroger et s'intéresser à la culture du judaïsme, et non pas seulement à la culture juive, à la culture du judaïsme, c'est-à-dire nos sources, nos traditions, et en quoi elles pouvaient nous parler? Évidemment, c'est la question que tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la spiritualité posent aux traditions, aux religions. Et à partir de là, on a construit ça en posant d'emblée des enjeux très élevés, c'est-à-dire des questions très générales, mais qui nous interpellent directement. Pourquoi très générales? Parce qu'on vit aussi à l'époque de l'expertise, de la spécialisation. C'est-à-dire que on peut lire des choses très pointues sur l'histoire des Juifs entre 1352 et 1492 en Espagne, mais on trouve très peu de choses sur, par exemple, la question de l'élection, qui est une question qui nous interpelle tous les jours, à la fois en tant que juif, en tant que citoyen, en tant qu'homme dans le monde. Voilà les questions que l'on veut poser. D'emblée, des questions qui peuvent nous interpeller nous les juifs, interpeller nous les citoyens français, nous les hommes, tout un chacun. Et d'ailleurs, la revue trouve un écho aussi bien dans la communauté juive qu'à l'extérieur.
Alors, vous dites nous quand vous parlez de cette revue, donc vous êtes une équipe. Et comment vous avez choisi cette équipe et comment vous avez choisi cette orientation, puisque c'est une revue telle que vous la définissez, une revue de réflexion pour un judaïsme ouvert. Alors, ce qui est une sorte de question qu'on pourrait poser, parce que le judaïsme en soi est ouvert. Pourquoi un judaïsme ouvert? Et qui sont vos collaborateurs, Philippe Schricky?
Alors, Tout d'abord, il faut pas se cacher, c'est une revue qui est éditée par le mouvement Ma Sortie, publiée par Hadad Shalom, soutenue par les autres communautés Ma Sortie de Paris, comme Dor Vador.
Je vous arrête tout de suite parce que nous sommes sur France Culture et les auditeurs ne savent pas nécessairement ce que veut dire une communauté Ma Sortie. Vous avez consacré le premier numéro de Mirta Fradash, de cette lettre nouvelle, au grand courant du judaïsme, 3000 ans de pluralisme, dans le numéro dans lequel vous expliquez les différents courants du judaïsme. Et parmi ces courants du judaïsme, il y a un courant qui s'appelle le courant Ma Sortie, où il y a plusieurs synagogues affiliées à Paris. Et donc, c'est dans ce courant Ma Sortie que j'aimerais que vous redéfinissiez par rapport aux autres courants que vous publiez cette revue.
Alors, il faut aller très vite parce qu'il y a beaucoup de courants. L'important dans le premier numéro, c'était de mettre en évidence l'existence d'un pluralisme dans la communauté juive que nous connaissons, mais qui n'est pas toujours accepté, en particulier en France, le fait qu'il y ait un certain pluralisme. On a voulu mettre ça en évidence dans le temps et dans l'espace, montrer qu'il y avait un pluralisme aux États-Unis, en Israël. D'où vient le courant Ma Sortie? Il faut se souvenir tout simplement que au moment de la Haskalah, c'est-à-dire les Lumières juives en Allemagne à la fin du XIXe siècle, est né le courant réformateur qui voulait concilier la tradition juive avec la condition d'homme, de citoyen issu des Lumières. À partir de là, certains réformateurs sont allés assez loin et d'autres se sont repliés. Ça a été le cas des orthodoxes qui sont nés justement de cette réaction à cette avancée dans la réforme qui considérait comme allant trop loin. Mais d'un autre côté, certains réformateurs auront aussi eu l'impression qu'on allait trop loin. Ça a été le cas des Ma Sortie, les conservatives. Les conservatives sont donc une réaction à trop de libéralisme et aussi une réaction à trop d'orthodoxie. Ce sont les centristes des Juifs.
Donc dans ce centrisme qui fait l'éloge de la pluralité, vous avez choisi de faire cette revue. Donc qui sont ces collaborateurs, puisque c'est pluriel? Est-ce que ce sont que des personnes qui appartiennent à ce mouvement centriste, si on peut dire, du judaïsme, Philippe Schricki?
Non, pas du tout. C'est une revue qui est faite par des Ma Sortie, mais qui est d'abord ouverte à tout le monde. Il y a d'ailleurs une minorité d'auteurs Ma Sortie ou qui s'en sentent proches qui écrivent dans cette revue. Nous mettons un point d'honneur à faire se réunir des orthodoxes, des libéraux, des gens de toute tendance et de toute discipline, des rabbins comme des historiens ou des philosophes. Alors dans notre équipe, il y a des jeunes qui s'impliquent, qui viennent de professions intellectuelles. Et il y a surtout une rédactrice en chef qui s'appelle Ruth Sheps, que vous connaissez, je crois, et qui a fait une très longue carrière ici à France Culture. L'approche Ma Sortie dans cette revue, ça n'est pas de défendre ou d'illustrer le mouvement, c'est par la liberté des questions. Voilà, nous posons des questions. Par la liberté des questions, nous voulons montrer quelle peut être une démarche d'ouverture.
Alors la semaine dernière, nous recevions ici le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui disait qu'il allait tout à fait dans votre sens, à savoir que pour lui, il n'y a pas de judaïsme libéral, orthodoxe, consistorial, mais il y a un judaïsme justement pluriel et ouvert. Et il semblait dire que tous les courants sont légitimes, en tout cas c'est comme cela que je l'ai entendu. Et avec lui, nous avons évoqué la notion de l'étude comme fait, surtout par dimension du calendrier qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de Shavuot, ce qui fera bien comprendre aux éditeurs que l'émission a été enregistrée avant et nous avions expliqué que pendant la fête de Shavuot, la Pentecôte juive, il y a une nuit d'études. Cette nuit d'études a eu lieu depuis hier soir jusqu'à ce matin, donc les auditeurs qui nous écoutent sont des auditeurs fatigués mais heureux par l'étude. Donc l'étude est une fête, c'était le nom de l'émission. En quoi cette revue est un lieu, un point de départ pour l'étude, pas simplement une information sur la culture juive, sur le judaïsme et sur ses textes, mais un lieu de rencontre où on peut étudier, c'est-à-dire on ouvre le texte, on ouvre ce livre de papier, et on peut étudier. En quoi c'est possible,
Philippe Schricki? D'abord parce que c'est une revue sur la danse, au sens de Nachman de Breslav, c'est-à-dire qu'il faut danser chaque jour, fût-ce par la pensée. Voilà la démarche. L'étude dans la joie, c'est ce qu'on a vécu cette nuit de Shavuot. Alors, l'étude, c'est en fait plusieurs choses. C'est lire, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est commenter, c'est approfondir, ou parfois c'est même survoler. Rappelons-nous que la première étude, c'est celle qui consiste à lire le texte. C'est Maïmonide qui explique ça dans son Mishneh Torah. Tu prendras un maître pour ton fils jusqu'à ce qu'il ait lu tout le texte. Et on est aujourd'hui aux tablettes numériques et à l'ère de l'édition, mais il faut se souvenir que nos ancêtres dans l'Antiquité et même jusqu'au Moyen-Âge n'avaient pas de livre au pluriel, ils n'en avaient qu'un. D'où l'idée que la paracha devait être un moyen de lire le texte pour tout le monde en une année.
La péricope de la semaine, oui.
La péricope de la semaine. Voilà. Donc, il y a différents degrés dans cette étude. Aujourd'hui, on appréhende l'étude en tant qu'héritier de l'école de Paris, comme étant un approfondissement, on se veut tous des Lévinas face à la pensée juive. Mais il y a différents degrés. Il y a différents degrés entre lire, apprendre, interpréter, et surtout, le propre du judaïsme, c'est questionner. Donc, la revue est là pour questionner. En quoi est-ce une revue d'études, d'une certaine façon ? Quand on veut étudier et qu'on est comme nous dans la nouvelle génération, c'est-à-dire venant à la fois de la tradition mais pas forcément du texte, et qu'on veut comprendre ce que l'on fait, c'est-à-dire que l'on veut, contrairement à ce que nous dit l'Exode, c'est-à-dire vous ferez et vous comprendrez, non, on a un peu envie de comprendre avant de faire. Et dans cette optique, je vois bien que la question nous permet d'interroger la tradition sans avoir d'abord à rentrer dans tout le texte et toute la tradition qui nous écrase d'une certaine façon à la Socrate, mais à poser, à avoir le privilège d'aller étudier en posant la question à chacun des maîtres qui nous intéressent.
Et donc dans cette revue, il y a des articles de fond. Vous avez pas peur d'être long dans les articles? Ce sont de longs articles. Et je pensais en
c'est même un parti pris.
C'est le parti pris qui est, me semble-t-il, intéressant. Et il me semblait que cela faisait écho, en tout cas, à cette petite archive qu'on a entendue au début, à savoir que ne pas avoir peur d'être élitiste pour tous, c'est-à-dire d'aller vraiment dans la profondeur, dans la difficulté, et ne pas avoir peur que cette difficulté soit en tout cas partageable.
Je ne suis pas né à Jérusalem. Mon berceau n'a donc pas été à Jérusalem. Mais je puis dire que Jérusalem était dans mon berceau. Dans mon Alsace natale, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, dans ma famille en particulier, à Obernai, abrité par mes parents et entouré de tous les autres membres de ma famille, de mes amis aussi, nous vivions intensément Jérusalem, au rythme d'abord de la vie religieuse qui scandait avec son « Lashana Abba, Birushalayim » chacun de nos seder et chacun de nos Yom Kippour et chacune de nos fêtes et chacun de nos Shabbats aussi, au rythme aussi de la nature, les cigognes qui reviennent en Alsace à Obernai, qui avaient leur nid à Obernai chaque printemps, eh bien je savais qu'elles venaient de Jérusalem et je sentais, comme le rabbin Sichel dans la vie Fritz der Kouman Chatrian, qu'un jour je reviendrai à Jérusalem. Bechol neshama yehudit poem haritmus hakeitze shel ha-Tanakh. ולכן אני חושב שכל יהודי, אפילו חילוני, לפי הטרמינולוגיה הנדושה, הוא יהודי, סתם יהודי. ובכל נשמה של יהודי מאמין פועם הקצף, הריתמוס של העולם כולו, הריתמוס האוניברסלי. ולכן אני חושב שכל יהודי מאמין, וכל יהודי כמוני שהוא מאמין באלוהים, שהוא מקיים מצוות, יש גם בתור נשמתו חלק חילוני, חלק אוניברסלי, חלק המקשר אותו לאחיו, שקוראים אותו אותם חילוניים. אין הבדל בין יהודי ובין יהודי, וכן אין הבדל בין יהודי ובין סתם בן אדם.
פיליפ שריקי, Je suis ému parce qu'en fait, cette voix et ce que je viens d'entendre est très émouvant. Quand nous avons préparé cette émission, vous avez émis le souhait d'entendre la voix d'André Néer, à qui d'ailleurs nous avions consacré ici même une émission avec David Bannon et l'École de Paris. Et que représente pour vous la figure d'André Néer? En quoi est-il emblématique du projet de cette nouvelle revue, de cette nouvelle lettre? Et la phrase en hébreu qui a clos cette archive, vraiment émouvante, parce que moi je connais bien les cigognes. Alors lui, il parle des cigognes d'Aubernay. Moi, je connais les cigognes que je vois passer au-dessus de Bar-Ilan, juste avant Pessah, et c'est vraiment une très très grande émotion. Mais en quoi est-ce que la phrase qui a clos cette archive n'est-elle pas paradigmatique de l'un de ces enseignements que vous voulez retenir? Et il dit en hébreu « En evdel ben Yehudi ou ben Yehudi, ou vechen en evdel ben Yehudi stam, ou ben Yehudi ou stam ben Adam ». Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif, et ainsi il n'y a pas de différence entre un juif et tout autre homme. N'est-ce pas là un des thèmes centraux du second numéro de votre revue consacré à la notion de peuple élu et à la dialectique à laquelle ouvre ce concept, celle précisément du particulier et de l'universel, Philippe Schricki?
Ben Evdel, Yehudi, Ben Yehudi, c'est presque plus qu'une différence, c'est une séparation. Or, justement, ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette revue qui s'appelle une revue de réflexion pour un judaïsme ouvert, c'est l'ouverture. Cette ouverture, est-ce pour autant un universalisme? Je ne le crois pas. Je préfère le mot universalité parce que l'universalisme a un côté un peu totalisant. Alors pourquoi Néer? Néer, c'est d'abord un choc et c'est une rencontre pour moi. J'ai eu l'occasion de rentrer dans son appartement chez lui à Jérusalem avec un groupe invité par Yad Vashem il y a de cela de nombreuses années. Et nous étions en train de réfléchir sur la Shoah. Et la grande question à l'époque, c'est le silence de Dieu et comment peut-on être croyant après la Shoah. Et c'est cette interrogation incandescente que portait Néer. Il, lui, en tant que croyant, se posait toutes ces questions, mais sans les éviter. Et il disait, lors de cette invitation dans son appartement, lui avec sa toute petite voix fluette, accompagnée de René Néer, il disait « Marcher vers l'avenir, qu'est-ce que cela signifie après Auschwitz ?» Et il disait « D'abord, c'est qu'il y a un avenir ». Voilà, ça c'était tout Néer avec sa douceur et avec sa profondeur. Il n'a eu de cesse d'interroger Job, il n'a eu de cesse d'interroger le combat avec les anges, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, lui, au sortir de la guerre, avec Claude Vigée, avec d'autres. Et il est, je pense, un des plus grands représentants de l'École de Paris, celui grâce auquel, et ce grâce auquel nous sommes là tous les deux, à pouvoir réfléchir, à pouvoir avoir accès aux sources. Il y avait Manitou, il y avait André Chouraki, il y avait Lévinas et il y avait Néer.
Alors Néer et Eliane Amado Lévy Valency. Et alors je suis très heureux que vous rajoutiez Chouraki et n'oubliez pas ce que vous vouliez dire parce que j'aime pas interrompre au milieu. Mais Chouraki pour moi, dans votre revue, j'ai appris quelque chose de très important parce que et qui est en lien avec la première archive. Dans le premier numéro, il y a un article d'un professeur américain qui s'appelle Camus juif point d'interrogation. Alors qui commence bien sûr en disant que Camus n'est pas juif, mais qu'il y a une très grande proximité, non seulement avec le judaïsme, mais avec les juifs. Et on apprend que Camus, pendant la guerre, dans le maquis, a travaillé, rencontré Chouraki, André Chouraki, avec qui il était très ami.
C'est effectivement une grande surprise. On savait que Chouraki résistait le jour et étudiait la nuit dans ces maquis d'Auvergne, là où beaucoup d'ailleurs de juifs se sont retrouvés, soit pour résister, Claude Lanzmann par exemple, soit pour être réfugiés au Chambon-sur-Lignon. Il était avec André Chouraki et d'une certaine façon, Camus était un juif de cœur. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que Camus, dans ses interrogations, est proche du judaïsme, en tout cas dans son esprit. Il y a deux exemples très très forts. Il nous invite à poser la question de la condition de l'homme et de la condition juive à travers le thème de l'étranger. Voilà un des thèmes les plus formidables qu'il ait développé. l'étrangeté. Le héros de Camus, Meursault, est étranger à tout ce qui se passe. Il est étranger aux événements. Il est étranger à sa communauté. Voilà quelque chose d'absolument fabuleux. Et comme enseignement, en tout cas pour moi, c'est un enseignement de courage. Il faut savoir être qui nous sommes, savoir à qui nous appartenons, mais il faut aussi savoir parler aux siens et avoir le courage de dire les choses aux siens quand ça ne va pas. Et deuxième chose, c'est évidemment le thème de l'absurde. Le mythe de Sisyphe, ce livre merveilleux qu'il a écrit. Alors, Zareski, l'auteur dans la revue, fait un rapprochement avec Job. Moi, j'ai plus d'autre tendance à penser que c'est un rapprochement avec Coëlette qu'il faut faire, avec l'Ecclésiaste, c'est-à-dire tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est jamais remplie, vanité des vanités. Et c'est l'interrogation de Camus dans le mythe de Sisyphe.
Alors, excusez-moi, revenons à l'école de Paris, donc Énéère, donc dans lequel je vous ai coupé, à moins que vous vous souveniez plus de la phrase dans laquelle vous étiez. Vous voyez comme quoi c'est pas toujours évident d'interrompre, je le regrette, parce que vous étiez parti sur l'école de Paris en disant voilà l'école de Paris à laquelle on doit tout, il y avait tel, tel et tel, et puis vous vouliez dire quelque chose.
Oui, alors l'école de Paris, elle nous a, à travers les grands pédagogues, Manitou, Gordin, Chouraki à sa façon, nous ont donné accès, nous ont ouvert les yeux à nos propres sources. Je me souviens d'un de mes profs d'histoire, je suis issu de l'école républicaine, de l'élitisme républicain, je ne renie rien et je pense que c'est une très bonne chose, qui me disait, à l'école républicaine, on apprend tout de notre littérature, de nos sources grecques, et on ne sait rien de nos propres sources juives. On sait à peine qu'il y a des sources juives et des grands penseurs dans le judaïsme. Voilà pourquoi des Manitou, des Gordin, des Chouraki nous ont donné accès, et donné accès déjà aux sources en traduisant en français et en nous expliquant à quel point ça pouvait être une sagesse universelle. Ensuite, il y a deux qui sont plus des penseurs que peut-être des pédagogues, c'est Néer d'un côté et c'est Lévinas. Lévinas, comme vous le rappeliez, a pris un peu le dessus en France. On a un peu oublié Néer. Mais ils vont dans deux directions, non pas opposées, mais sans doute complémentaires. Lévinas met l'accent beaucoup sur la philosophie et il l'utilise, et il va chercher le plus de philosophie possible. Il essore la tradition pour en trouver la philosophie des lois. Et Néer, lui, est un lecteur incroyable. Il va chercher, et il tord, et il triture les versets, non seulement avec l'exégèse juive, mais avec la littérature et la philosophie, les instruments de la modernité.
Je suis très 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 heureux que vous ayez vous ayez choisi ce mentor, si on peut dire, pour cette revue. Et donc, d'une certaine manière, on retrouve dans cette revue cet esprit de l'étude qui va chercher justement les sources qui vont les montrer, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi, à la fin de chaque numéro, il y a aussi des entretiens avec des peintres, avec des musiciens, et puis il y a aussi toute une illustration, une iconographie, soit de peinture, soit de sculpture, ou soit encore de photographie. Et puis il y a aussi une revue de littéraire où certains livres sont présentés, mis en avant. Est-ce que c'est comment vous articulez les deux pendant, à la fois la dimension strictement étude des sources et la dimension, je dirais, plus agenda culturel, Philippe Chéqui?
Je ne voudrais pas faire un agenda culturel, justement, parce que la revue est semestrielle. On la trouve en librairie, on la trouve sur abonnement, mais l'idée, c'est qu'elle est déconnectée de l'actualité, d'une certaine façon, puisque plus on pense en profondeur, plus les sujets sont intemporels. Première partie, c'est effectivement la culture du judaïsme, l'interrogation des sources, des textes, mais aussi des autres disciplines qui viennent en complément, parce qu'il est indispensable aujourd'hui, on le sait, d'avoir des lectures plurielles. Et de l'autre côté, il y a la culture juive, mais pas la culture au sens des juifs de culture. C'est-à-dire qu'on va chercher dans la culture que l'on choisit, c'est-à-dire dans l'art, dans les livres ou dans la musique, quelque chose qui est de l'ordre de la neshama. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut sortir. Où est cette neshama juive, qu'elle soit cachée ou avouée? Et c'est dans ce sens, par exemple, que nous avons réalisé un entretien extraordinaire avec le pianiste Yaron Herman, qui est un pianiste de jazz exceptionnel, très jeune, éblouissant, quelqu'un qui a un don et une vibration. Et cette vibration, on a senti tout de suite, j'ai senti dans sa musique qu'il y avait une neshama.
Alors vous traduisez parce que...
Ah, une neshama, c'est une âme. Ouais. Une âme dans la musique. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse du jazz, c'est pas innocent. Dans le jazz, il y a le mouvement soul. Il y a un célèbre morceau, Body and Soul. Soul, c'est l'âme. Et l'âme que l'on sent dans le jazz, on la trouve effectivement dans ce personnage et dans sa façon de jouer, dans sa culture. Voilà.
Bah c'est, je vous remercie vraiment Philippe Schricki pour cette joyeuse conversation qui se termine par par la musique. Vous avez évoqué la danse de la joie et de l'étude de Rabbi Nachman qui est bienvenue en ce jour du don de la Torah et de la fête de l'étude. Cette conversation a offert à la fois de belles nouvelles pistes d'étude et donné l'envie de retourner au texte, de découvrir, comme dit Lévinas, l'oiseau aux ailes repliées qui dans chaque mot attend le souffle du lecteur.
Eh bien, écoutez, merci infiniment. Il se trouve que cet oiseau, je voudrais penser que c'est la cigogne que voit André Neher depuis chez lui à Obernai, comme à Jérusalem.
Merci encore. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui, à la technique, Alain Joubert. À la réalisation, Dany Journeau. Vous pouvez réécouter, podcaster l'émission sur le site de France Culture. Vous y retrouverez aussi toutes les informations bibliographiques de la revue, ainsi que les références des archives que nous avons citées, que nous avons fait entendre. Kol Tov, Leitraot, bonne fête de Shavuot, bonne fête de Pentecôte, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.